Voici l'Europe, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, bienvenue pour Ici l'Europe à Bruxelles. Nous sommes ensemble sur France 24 et Radio France Internationale. Et nous avons le plaisir d'être d'ailleurs à quelques pas de l'Atomium, la principale attraction de Bruxelles avec ses 9 sphères qui représentent un atome de fer, car nous allons parler atome. En effet, cette semaine a été marquée non seulement par un sommet européen dédié à l'Ukraine, mais aussi par un sommet international de l'énergie nucléaire dans la capitale belge, le premier du genre. La rencontre était organisée à la fois par la Belgique et par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui son directeur général, Raphaël Grossi. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Je rappelle que vous dirigez cette organisation internationale sous l'égide de l'ONU qui est basée à Vienne et qui cherche à promouvoir des usages pacifiques de l'atome, justement, et limiter le développement des applications militaires. Quel était le sens vraiment de ce premier sommet sur l'énergie, parce que les termes ont un sens, l'énergie nucléaire?
C'est ça, justement. À chaque fois que les pays se réunissent au niveau de leaders, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Sinon, on a des réunions bureaucratiques, normales, selon un calendrier préétabli. Dans ces cas-ci, je crois que l'effet que les leaders du monde, parce que comme vous dites bien, il y a évidemment le président Macron, mais il y a aussi des représentants de la Chine, des Landes, du Pakistan, de l'Argentine, du Brésil, de l'Afrique du Sud, et le fait que ces leaders mondiaux se retrouvent ici autour du nucléaire civil, de l'énergie nucléaire, ça en dit long à propos de défis qu'on a en ce moment au niveau global. Quels sont ces défis? Bon, il y en a beaucoup, mais en tout cas, il y a une question liée à l'énergie, à la décarbonation des mix énergétiques au niveau global. Et il y a une reconnaissance grandissante, je dirais, un consensus sur le fait que le nucléaire n'est pas une panacée. Mais sans le nucléaire, on ne pourra pas arriver aux accords, au niveau établi à Paris il y a déjà quelques années.
Et donc, dans les COP, à travers les COP.
Dans les COP, à travers le monde. Et puisque vous citez les COP, ces conférences internationales autour de la Convention du changement climatique, ces endroits, ces réunions-là étaient, moi, je n'hésiterais pas à dire, hostiles au nucléaire. On ne parlait pas nucléaire dans ce type de réunions-là. Et voyez-vous, on est arrivé à un point où, à Dubaï, au mois de novembre l'année dernière, on est arrivé à un consensus pour dire que le nucléaire doit être accéléré, non seulement mentionné, mais accéléré. Donc moi j'aime parler d'un retour au réalisme.
En même temps, depuis les accidents de Tchernobyl en 86, de Fukushima en 2011, le débat est vif en Europe sur le nucléaire. En 2021, les centrales nucléaires ont généré 25% de l'ensemble de l'électricité produite dans l'Union européenne. Et c'est un chiffre plutôt en baisse. Comment vous l'expliquez ?
C'est un chiffre en baisse, c'est vrai. En même temps, c'est la moitié de l'énergie propre produite en Europe. Je crois que quand vous dites la moitié, ça répond à une tendance qui a été marquée, je crois, depuis les années 80, clairement, où le nucléaire a commencé à diminuer graduellement pour toute une série de raisons. Vous citez les cas de Tchernobyl, après il y a eu Fukushima, mais la réalité, c'est que le nucléaire a, un record de sécurité et de sûreté assez remarquable, que les standards de sécurité et de sûreté sont vraiment très très bonnes et que la technologie, elle aussi, a évolué énormément. Et que finalement, je parlais tout à l'heure du réalisme, on sait que pour produire autant d'énergie, d'électrifier, de décarboner de secteurs clés de l'économie, on n'a pas 36 000 alternatives. Il y a évidemment l'hydro, il y a les renouvelables, et et les nucléaires. Et on sait qu'on ne pourrait pas s'en sortir avec une seule source d'énergie propre. L'énergie nucléaire, elle est reconnue comme une énergie très efficace, dispatchable, de base et très, très stable.
Vous parlez d'une énergie propre alors que on sait que les déchets nucléaires les plus dangereux le resteront pendant des milliers d'années. Pour l'instant, on a des techniques d'enfouissement vitrifié sous l'eau ou sous la terre, mais ça n'est pas durable.
Les déchets ne se détruisent pas complètement, mais les déchets, ils les gèrent d'une manière sûre. Et quand on fait, avec tout, et dans tout le secteur dans la vie, il faut faire des compromis. Et là, on voit que les déchets nucléaires sont gérés, sont traités, sont protégés, sont même inspectés. Vous voyez, moi-même, j'inspecte ça parce qu'il y a de la matière nucléaire là et qu'on s'agit, on parle de volumes très, très réduits. Et l'alternative à cela, c'est de continuer avec des activités énergétiques qui nuisent à la planète d'une manière immédiate, vérifiable et constante, permanente. Et l'alternative étant d'avoir des endroits sûrs où on peut déposer ces déchets, et oui, dans des périodes longues, mais qui ne posent pas un problème réel sur l'environnement.
Certains pays membres de l'Union européenne, l'Allemagne, qui est quand même le pays le plus fort économiquement, a fait un choix drastique de fermer toutes ses centrales. Donc le débat est vif quand même, vous le reconnaissez.
Absolument, moi je le reconnais, mais moi je dirais une chose. En fait, en tant que chef d'une organisation internationale, je respecte les décisions souveraines des États membres. Mais si vous regardez, l'Allemagne, c'est le seul pays qui a fait ce choix, qu'on respecte. Mais finalement, cette remise en question qu'on a connue, et c'était logique, après Fukushima, finalement, il n'y a aucun pays qui a suivi cette voie. Et au contraire, on voit que les pays s'engagent de plus en plus.
12 États membres de l'Union européenne qui produisent de l'énergie nucléaire, évidemment en tête la France, l'Espagne et la Suède. 120 réacteurs nucléaires en Europe que vous inspectez, vous le disiez. Et d'ailleurs, vous dites que c'est une solution de substitution à faible intensité carbone, donc décarbonée, et pourquoi pas plus de financement public de la Banque mondiale, par exemple la Banque européenne d'investissement. Vous seriez d'accord pour...
C'est indispensable. Vous savez, on est devant une paradoxe, parce que ces institutions du financement international, dans certains cas, interdisent, je dis bien interdisent, les financements du nucléaire. Et ça, c'est un peu, si vous voulez, les bagages de toute une période révolue où il y avait une grande opposition au nucléaire. Donc, on a tourné cette page, on parlait tout à l'heure du consensus à Dubaï, tout le monde dit qu'il faut du nucléaire, mais on est un peu, je dirais, en décalage. Les institutions financières internationales sont en décalage par rapport au marché, par rapport aux décisions politiques et par rapport à la société. Parce que si on voit les sondages d'opinion, même dans des pays qui laissent les nucléaires, ils sont plutôt favorables. Donc on s'y attelle. J'étais très intéressé d'entendre le président Macron qui, dans sa locution, a parlé de ça. Moi-même, je suis en consultation avec la Banque mondiale et avec d'autres instances pour faciliter donc l'accès au financement public pour des projets nucléaires.
Il y a quand même d'autres craintes. Après 2 ans de guerre en Ukraine, où l'Union européenne s'est à ses portes, bien sûr, on a le Kremlin qui se livre à des cyberattaques un peu contre les pays, on le sait, contre des institutions publiques. Est-ce qu'il n'y a pas de risque, justement, d'attaques cyber sur des installations nucléaires? Est-ce que ça aussi, vous le surveillez de près?
On surveille, mais moi, je dirais, si vous me permettez une réflexion plus générale, les problèmes d'attaques cyber ou d'autres types d'attaques, c'est un problème de type militaire qui peut, influencer non seulement le nucléaire, toute autre activité. Ce n'est pas parce qu'on a une centrale nucléaire qui a été occupée militairement que la technologie nucléaire a un problème. Le problème, c'est la guerre. Les problèmes, c'est la confrontation.
Là, vous politique. Revenez à Zaporijjia, c'est ça, oui. Au cœur des combats entre les Russes et les Ukrainiens. Est-ce que vous avez accès suffisamment? Est-ce que vous êtes rassuré sur l'état de cette centrale?
Dès le commencement de cette guerre, l'Agence internationale de l'énergie atomique a fait un choix. Et ce choix, c'était le choix difficile mais indispensable de plonger et d'être là. Ce n'était pas facile. Mais on a réussi à avoir une présence permanente sur place. Donc nous avons nos experts là et nous avons un dialogue permanent. Dialogue qui n'est pas facile. Moi, j'étais il y a quelques jours à Sotchi où j'ai eu ma deuxième réunion. J'avais été déjà à Saint-Pétersbourg avec le président Vladimir Poutine.
Les Ukrainiens vous accusent un peu de n'imposer rien à la Russie. Est-ce que c'est vrai?
Moi, mon rôle là, c'est d'éviter un accident nucléaire. Et je parle évidemment aussi au président Zelensky. Je me consulte. On supporte toute l'infrastructure nucléaire en Ukraine, pas seulement à Zaporijjia. Donc, moi, évidemment, je ne pourrais pas, en tant que chef d'une organisation internationale, faire pression sur un État. Mais j'ai une mission et je sais ce que je peux faire pour éviter un problème plus grave comme un éventuel accident avec des conséquences radiologiques graves.
Alors parlons justement nucléaire militaire avec une inquiétude constante de la communauté internationale concernant la volonté de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, en particulier dans le cadre d'un conflit entre Israël et Gaza. Beaucoup d'inquiétudes. Vous avez noté d'ailleurs à l'AIEA une augmentation des stocks d'uranium qui met en cause l'accord international signé en 2015. Les explications de Ludovic Foucault.
Officiellement, la République islamique d'Iran nie vouloir se doter de la bombe nucléaire. Mais le pays disposerait désormais de suffisamment de matière pour fabriquer plusieurs armes. D'après un point d'étape de l'Agence internationale de l'énergie atomique, les stocks d'uranium détenus par l'Iran s'élevaient à 5 525,5 kg au 10 février contre 4 486,8 fin octobre. C'est plus de 27 fois la limite autorisée par l'accord international de 2015 qui encadrait les activités atomiques de Téhéran en échange d'une levée des sanctions internationales. La République islamique a aussi largement dépassé le plafond d'enrichissement fixé à 3,67%, ce qui est utilisé dans les centrales nucléaires pour la production d'électricité, même si dans le cas du seuil de 60%, proche des 90% nécessaires pour fabriquer une arme atomique, Téhéran a réduit son stock à 121,5 kg après une opération de dilution menée en début d'année. En 2018, Donald Trump décidait de retirer unilatéralement les États-Unis du JCPOA, le pacte de 2015.
L'accord qui a été signé était un désastre. Il était tellement à court terme que d'ici très peu de temps, ils auraient été capables de faire des armes nucléaires et c'est inacceptable.
Depuis, l'Iran s'est progressivement affranchi de ses engagements. Les inspections ont été fortement réduites, les caméras de surveillance débranchées et l'accréditation d'un groupe d'experts retirée. Pourtant, aucune résolution n'a été présentée depuis novembre 2022. Dans un contexte de crainte d'embrasement au Moyen-Orient, occidentaux et iraniens semblent vouloir calmer le jeu. Le gouvernement de la République islamique a annoncé avoir réinvité le patron de l'agence onusienne, Raphaël Grossi, à Téhéran pour une conférence internationale sur l'énergie.
Raphaël Grossi, à l'AIEA, l'Iran restreint de manière sans précédent, vous dites, la coopération avec votre agence, qui est comme prise en otage. Ce sont vos mots. Comment vous nous expliquez?
Elle est réduite. L'agence a un travail permanent. Donc, on continue à faire nos inspections. Mais comme je l'ai noté à plusieurs reprises, et vu ce qu'on vient de voir, l'activité nucléaire en Iran augmente. Et moi, j'ai toujours dit, ils peuvent faire ça, mais il faut avoir un système d'inspection à la mesure de ces ambitions-là. Les technologies y attenantes. Et on a connu des problèmes. Et on est engagé diplomatiquement, politiquement et techniquement, mais on n'est pas au niveau où j'aimerais être.
Et vous parlez d'une question de mois pour que l'Iran acquiert l'arme nucléaire. Ça va très vite.
Vous savez, il faut être, en tout cas, de mon point de vue, les analystes ont plus de liberté. Mais moi, en tant que chef de l'AIA, moi, je ne dirais pas que c'est une question de mois avant qu'ils arrivent à l'arme nucléaire. Non. Mais ce qui se passe dans les pays, ce n'est pas banal. Donc, c'est pas anodin. Quand vous avez un stock d'uranium enrichi à un niveau très, très proche du niveau militaire, c'est 90%, donc ils sont à 60, donc c'est à deux pas, si vous voulez, du niveau. Cela ne voudrait pas dire qu'ils ont déjà automatiquement l'armement nucléaire, mais c'est quand même inquiétant. C'est pour ça que je dis, si l'Iran, comme ils disent, n'a rien à cacher, alors permettez à nos inspecteurs de faire leur travail.
Le président Vladimir Poutine a averti l'Occident que la Russie était techniquement prête à une guerre nucléaire et que d'ailleurs elle avait de meilleures armes. Il a sorti la Russie du traité interdisant les essais nucléaires. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de tout cela ?
Je m'inquiète un peu sur cette espèce de surenchère et cette espèce de... on se livre à des déclarations et à propos de l'usage éventuel de l'arme nucléaire. Ce n'est pas bon. Et on sait que les pays dotés de l'armement nucléaire, en principe, seront prêts à l'utiliser. Sinon, à quoi ça servirait ? À quoi la théorie de la dissuasion, etc. Nous, on n'est pas pour l'arme nucléaire, évidemment. Donc, moi, je pense qu'il y a une espèce de lassitude, une espèce de permissivité, je dirais, dans les déclarations qui n'est pas bonne, même dans les contextes du Gaza et du conflit là-bas, on parle d'armement nucléaire. Je pense qu'il faut arrêter ça. Je crois que c'est pas bon. En tout cas, mon travail, ma mission, ce n'est pas de désarmer, mais d'éviter la prolifération. C'est-à-dire que davantage de pays se lancent dans des projets d'armement nucléaire. Et c'est clair que plus on dira... et qu'on brandissera la menace de l'arme nucléaire, plus de pays
seront tentés.
Et ça, on le voit. Il y en a qui le disent.
Beaucoup disent aussi en Europe que notre dépendance à la Russie est vraiment réelle dans le secteur du nucléaire. L'entreprise russe Rosatom échappe d'ailleurs aux sanctions européennes et occupe une place clé dans les approvisionnements de l'Union européenne en uranium enrichi. 30% des centrales européennes en dépendent. Et d'ailleurs, ça n'est pas vraiment changeable à moyen terme.
Oui, c'est vrai. Mais vous savez, cela répond au fait que plusieurs projets à long terme, et dans le domaine de l'énergie, c'est le cas, précédaient la guerre. Et donc, qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, tout arrêter. Et parce que de le faire nuirait énormément à des pays européens qui en dépendent énormément. Vous savez qu'en Europe de l'Est, il y a des pays qui dépendent complètement de l'énergie apportée par leurs réacteurs nucléaires, qui, pour la plupart, étaient d'origine à l'époque soviétique et après russe. Donc on ne peut pas dire, on arrête tout, parce que c'est une technologie à l'origine russe. Donc on parle bien de pays de l'Union européenne. Donc ce n'est pas faisable. Politiquement, ça peut sonner bien, mais ce sont des choses qui ne peuvent pas être réalisé comme ça du jour au lendemain. Donc il y a des efforts, je sais, au niveau du secteur énergétique aux États-Unis d'Amérique, aussi en France, dans d'autres pays, pour développer des capacités de fabrication de combustibles nucléaires autres que les Russes, etc. Mais ça prendra un peu de temps.
Merci Raphaël Gossi d'avoir été notre invité pour cet entretien sur France 24 et Radio France Internationale. Restez bien sur nos deux antennes où l'actualité internationale continue.